Europe Midi, Fabienne Lemoile.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
Mia a été retrouvée, ainsi que sa mère, en bonne santé, dans un squat à Sainte-Croix.
Le soulagement du procureur de la République de Nancy, dénouement heureux de l'enlèvement de la petite Mia. Après l'alerte lancée mardi, Mia retrouvée en Suisse, qui va bien et qui va retrouver sa grand-mère. L'actualité de la nuit, c'est le verdict du procès en appel des policiers brûlés par des jets de cocktails Molotov à Viry-Châtillon. Verdict qui provoque la colère, plus clément, avec 8 acquittements, 5 condamnations de 6 à 18 ans qu'en première instance. Invité de ce journal, Claude Cariot, responsable dans l'Essonne du syndicat de police Alliance. Dans l'actualité encore, la mort d'un héros de la Libération, l'avant-dernier membre du commando Kiefer, qui avait débarqué le 6 juin 1944 sur la côte normande. Hubert Faure, 106 ans, s'est éteint hier. L'actualité sportive avec le PSG qui affronte dans une demi-heure Saint-Etienne au Parc des Princes en Ligue 1. Nous serons sur place. La météo avec une France coupée en deux. Grand beau sur l'ouest, beaucoup d'instabilité à l'est et même de la neige, nous dira Valérie Darmon, sur les Alpes du Sud à 1200 mètres. Et puis il y a deux ans, le monde entier découvrait sidéré Notre-Dame en proie aux flammes. Agnès Poirier nous fait revivre dans un livre passionnant Notre-Dame, l'âme d'une nation, cette nuit où la cathédrale a été sauvée. Elle nous replonge aussi dans l'histoire de cette cathédrale qui explique pourquoi cet incendie a bouleversé le monde.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
5 jours que l'on était sans nouvelles de la petite Mia depuis l'alerte enlèvement lancée par les autorités mardi soir. Très vite, plusieurs hommes ont été interpellés, présentés comme le commando qui avait enlevé l'enfant de 8 ans au domicile de sa grand-mère dans les Vosges. Tout laissait penser que Mia avait quitté la France. Et il y a moins d'une heure, c'est un procureur de la République de Nancy, visiblement soulagé, qui a annoncé que Mia allait bien et qu'elle avait été retrouvée en Suisse avec sa mère, Marion Gauthier.
Oui, dans une usine désaffectée à Sainte-Croix, une petite commune sur la frontière suisse au sud de Besançon. Le procureur de la République de Nancy, François Perrin, rassure sur leur état de santé.
Ce matin, vers 10h45, cette jeune Mia a été retrouvée ainsi que sa mère. Elle est en bonne santé. La protection judiciaire de la jeunesse a été mandatée pour aller immédiatement la récupérer en Suisse et la remettre bien évidemment à sa grand-mère.
Et la mère, de son côté, a passé sa première heure en garde à vue sous le contrôle des autorités helvétiques. Lola Montemaghi et sa fille sont arrivées il y a quelques jours déjà en Suisse. Elles ont passé une nuit dans un hôtel d'Estavier-le-Lac, puis elles ont été hébergées par une femme à Neuchâtel avant de descendre vers Sainte-Croix. Le procureur précise qu'elles n'ont pas pris de train, mais elles sont montées dans des taxis ou des voitures de particuliers qui les ont aidées. Le nombre d'interpellations devrait donc augmenter dans les prochaines heures. On rappelle que 5 suspects, dont les 3 ravisseurs de Mia, ceux qui l'ont enlevée dans les Vosges mardi matin, doivent être présentés à un juge d'instruction aujourd'hui en vue d'une mise en examen.
Marion Gauthier, donc, pour cette information qui est tombée il y a une heure maintenant. La petite Mia retrouvée en Suisse avec sa mère et qui va bien et qui va être rendue à sa grand-mère. L'autre information, l'information de la nuit, c'est ce verdict qui provoque la colère. Le verdict du procès en appel des policiers brûlés à Viry-Châtillon, c'était lors d'une attaque avec des cocktails Molotov en 2016. Verdict plus clément que celui du premier procès. 13 mineurs étaient jugés aux assises de Paris après 14 heures de délibéré. C'est cette nuit qu'il est tombé. 5 accusés condamnés à des peines de 6 à 18 ans, 8 acquittements. Gladys Laffitte, vous étiez cette nuit au palais de justice où la tension était très forte.
Oui, un verdict sous très haute tension, à tel point que la présidente n'a pas pu aller au bout de la lecture, tout simplement parce qu'une bagarre générale a éclaté dans le box une fois les peines prononcées. La confusion a régné une bonne dizaine de minutes, des renforts de gendarmes ont même dû être mobilisés pour maîtriser les accusés et évacuer la salle. Les jurés et les magistrats sont sortis très vite. Bref, une scène totalement surréaliste, explique maître Thibault de Montbrial, avocat d'une policière blessée.
C'est un naufrage parce que au moment du verdict, et malgré sa clémence pour l'immense majorité des accusés, le naturel a repris le dessus. Certains accusés qui pourtant venaient d'être acquittés ont tenté d'en agresser un autre. Et ont pris à partie également les gendarmes dans une scène d'une violence que je n'ai jamais vue en 25 ans dans une cour d'assises.
Voilà pour le commentaire de Thibault de Montbrial après ce verdict. Qui est donc plus clément, Gladys, qu'en première instance. Comment la Cour l'a-t-elle motivé ?
Eh bien, on ne sait pas, hein, puisque la lecture du verdict a été interrompue à cause de cette bagarre. En tout cas, le délibéré a duré 14 heures, délibéré qui a conduit à 8 acquittements contre 5 en première instance, parmi lesquels le client de maître Sarah Mogé-Poliac.
C'est un démenti cinglant de cette enquête qui est pour, à mon sens, une des plus grosses erreurs judiciaires de ces 10 dernières années, à minima. Ça va être un second temps maintenant, réparé, ce qui en réalité, pour ces jeunes, en tout cas pour le jeune que je défends, ne sera en réalité, je pense, jamais réparable.
Du côté des parties civiles, c'est la consternation et l'incompréhension, notamment face aux peines de prison prononcées contre les 5 accusés reconnus coupables de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, de 6 à 18 ans de réclusion. En première instance, 8 personnes avaient été condamnées et jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle avaient été prononcées.
Bonjour Claude Carillo.
Oui, bonjour.
Secrétaire départemental du syndicat Alliance dans l'Essonne, le département où se trouve justement la commune de Viry-Châtillon, où avait lieu cette attaque très violente en 2016. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Votre réaction tout simplement après ce verdict, d'autant que j'imagine que vous avez dû avoir certains de vos collègues touchés ou qui sont sur le terrain.
Écoutez, colère et incompréhension. Colère parce que c'est de dissocier les individus qui ont agi en commando, c'est inexplicable, c'est inqualifiable. Il y a des personnes qui ont participé, c'est clair, l'enquête elle l'a démontré. Nos enquêteurs ont dû faire face à l'omerta et la loi du silence et ont travaillé de manière très minutieuse et leur enquête est remise en cause aujourd'hui. Donc soit tout le monde est condamné et l'enquête a abouti, ou soit aujourd'hui on a certains qui sont condamnés et d'autres pas, et là c'est l'incompréhension et la colère par rapport à la faiblesse des sanctions.
On entend effectivement, Claude Carillo, votre réponse en quelque sorte à l'avocate de l'un des accusés qui est acquitté, qui il y a quelques instants, on l'entendait sur l'antenne, met en cause l'enquête.
Oui, là. Alors, si vous voulez, le souci que nous avons, c'est que les avocats ont leur rôle, bien évidemment, ils ont leur rôle, mais un petit peu qu'ils aient un peu de respect pour ceux qui travaillent au quotidien, pour la sécurité de tous, y compris la leur, hein, parce que quand on voit pendant le délibéré les individus qui se battent, ils auraient très bien pu recevoir des coups eux aussi. Et là, ça démontre bien l'état d'esprit qu'ont ces délinquants. Et le message à envoyer, c'est de donner un permis de tuer des policiers, et ça, on ne peut pas l'accepter, et de faire ce qu'ils veulent à peu près partout, y compris dans les salles d'audience judiciaire.
On entend, Claude Carillo, votre colère, votre incompréhension. Qu'est-ce que vous redoutez justement après ce verdict, que ça se traduise par quoi sur le terrain pour vos collègues ?
Bien, écoutez, on a un niveau tel de violence envers mes collègues qu'il n'y a plus de gêne de quoi que ce soit. Et là, au délibéré, ce qui s'est passé, ça démontre bien ce qui se passe sur le terrain. Il y a un total... Il n'y a plus de gêne par rapport aux policiers, donc on se bat, on se mutile. Là, on a quand même un policier qui est mutilé à vie. Et on a d'autres collègues qui sont touchés psychologiquement à vie aussi, parce qu'il s'est passé par des barbares. Hein. C'était des barbares qui sont intervenus, qui ont bloqué les portières pour les laisser brûler, qui les ont tabassés, qui ont rallumé le feu pour notre collègue. Et ça, franchement, c'est incompréhensible de voir cette décision de justice.
Merci beaucoup, Claude Carré. Je rappelle, secrétaire départemental du syndicat Alliance dans l'Essonne, d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce midi pour commenter donc ce verdict du procès en appel des policiers brûlés à Viry-Châtillon.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
Ce week-end marque aussi la volonté du gouvernement d'accélérer la vaccination des plus de 55 ans, notamment les professions les plus exposées comme les enseignants ou les policiers. Mais on l'a vu hier dans ce même journal, il y a de la réticence à se faire vacciner avec l'AstraZeneca, alors que l'Agence française du médicament a annoncé vendredi que le nombre de thromboses, ces caillots sanguins typiques en lien avec une injection, était désormais de 23 pour 2 700 000 injections. Marie-Paul Kenny, la présidente du comité vaccin, répond justement aux inquiétudes avec ce vaccin AstraZeneca.
Le problème, c'est qu'une fois qu'un mouvement de panique est lancé, c'est très difficile de l'arrêter. Il faut quand même bien dire que ces effets secondaires et les thromboses très particulières sont extrêmement rares. On est en train de parler à quelques cas par million de personnes vaccinées. Il y a des gens qui, pour le raison de leur âge ou de leur maladie, qui ne peuvent être vaccinés qu'avec des vaccins ARN. Ici, les gens qui peuvent être effectivement vaccinés en toute sécurité avec du vaccin AstraZeneca arrêtent et insistent pour avoir celui-là aussi, ça veut dire que les autres ne pourront pas y avoir accès et que toute la campagne de vaccination va se traîner en longueur. On va prendre beaucoup plus de temps à arriver à se débarrasser de cette troisième vague qu'on a actuellement de Covid-19.
Marie-Paul Kenny, la présidente du comité vaccin, avec Marion Gauthier. Alors, dans cette course à la vaccination, certaines régions veulent prendre de l'avance. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, a précommandé des doses du vaccin russe Sputnik qui n'est pas encore autorisé en Europe. Un choix que Renaud Muselier assume ce matin sur Europe 1.
En ce qui concerne le Sputnik, quand vous faites une commande, je suis tout à fait dans les règles de l'Europe et de la France, et j'ai le droit de le faire. Donc je fais une précommande de Sputnik auprès de l'ambassadeur. Cette demande a été validée par le ministre de la Santé de Moscou, qui m'a adressé à la Fondation, et je suis en contact avec la Fondation pour précommander, comme un certain nombre d'autres pays d'Europe. Et à ce moment-là, ce vaccin, quand il va passer dans les normes européennes d'autorisation administrative, donc, eh bien à ce moment-là, je serai dans les premiers à avoir commandé, pour être un des premiers à être et le livré.
Renaud Muselier, qui était l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Et puis on l'a appris hier soir, nouveau tour de vis aux frontières à partir de mardi pour freiner la propagation des variants anglais et sud-africains, multiplication des tests PCR de moins de 36 heures désormais avant l'arrivée et un test antigénique systématique une fois sur le sol français pour les voyageurs en provenance notamment d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud mais aussi de la Guyane, des voyageurs qui vont aussi être soumis à une quarantaine de 10 jours dans le lieu de leur choix, avec le contrôle par la police ou la gendarmerie du respect de cet isolement. Et puis, certains ont choisi de vivre ce nouveau confinement à la campagne. Et, bonne nouvelle, ça redonne vie à des petits villages. Exemple, Auger-Saint-Vincent, c'est dans l'Oise. Le maire de cette commune qui est à peine à une heure de Paris, développe des gîtes pour le tourisme depuis quelques années, sauf qu'avec la crise de Covid, eh bien, il se vide, mais rempli justement par ses travailleurs en quête de verdure. Le maire a même fait installer la fibre. Reportage Pierre Herbulot.
Une salle de séminaire dans le presbytère. Pour attirer des touristes et des télétravailleurs, Fabrice Dallongeville, le maire d'Auger-Saint-Vincent, a décidé de transformer le vieux local en gîte, un de plus.
Là, on est aujourd'hui à 3. 4 avec celui de la commune et il y en a 2 autres en préparation.
Bientôt, une quarantaine de lits dans son village de 500 habitants, de quoi redynamiser la commune.
C'est un peu le cercle magique ou vertueux, c'est-à-dire comme il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ils ont besoin de commerce de proximité, comme les habitants en fait, donc le distributeur de pain, l'épicerie citoyenne qui sera installée dans le café.
Ouverture prévue à la fin du mois prochain. Derrière l'église, une petite maison avec un grand jardin. Ce qui ressemble à une partie de ping-pong est en réalité une réunion de travail.
Donc là aujourd'hui, il s'agit de mettre en place un POC, donc un Proof of Concept.
Ravi est chef de projet de la société Soprasteria. Avec 3 collègues, ils se sont mis au vert pour développer le site internet d'un prestataire.
Le but, c'est en même temps de pouvoir s'aérer un peu, ouvrir nos canaux pour gagner en originalité. Ça se ressent vraiment au niveau du résultat derrière, on est beaucoup plus efficace.
Un dispositif gagnant-gagnant pour les travailleurs et le village Picard. À Auger-Saint-Vincent, Pierre Herbulot. Europe.
La mort d'un héros de la libération. Il était l'avant-dernier membre du commando Kieffer, Hubert Faure, est mort hier à l'âge de 106 ans. Je disais héros de la libération, Jean-Gabriel Bourgeois, parce qu'il a fait partie des seuls Français à avoir débarqué sur la côte normande le 6 juin 1944.
Oui, fils d'un poilu de la Première Guerre, Hubert Faure quitte son Périgord natal pour s'engager dans l'armée de terre. Et quand la Seconde Guerre éclate, il participe à plusieurs opérations, fait plusieurs fois prisonnier et parvient toujours à s'échapper. Avec quelques volontaires de la France libre, il rejoint les forces navales du commando Kieffer. Chef de sa section, il a 30 ans quand il pose le pied le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. 70 ans plus tard, en 2014, au micro de Thierry Geffrotin, Hubert Faure se souvient.
Dès que les rampes ont été lancées, on a eu plusieurs gars qui ont été touchés, ce qui fait qu'on ne pouvait plus passer. Alors il fallait se jeter à l'eau depuis la hauteur du pont, qui ça faisait 3 ou 4 mètres. Quoi. Sur la plage, j'étais battu par les mitrailleuses allemandes. Et moi, dans ma section, j'ai perdu un groupe de combat entier.
Une poignée de braves, 177 Français, volontaires, pas tous soldats, formés en quelques mois, débarquent en premier sur la côte normande. Des héros reconnus tardivement, souligne le journaliste Jean-Marc Tanguy, auteur d'un livre sur le commando Kieffer.
C'est vrai que dans l'histoire collective française, le commando Kieffer est insuffisamment connu et reconnu. Il y avait eu un vrai retard de reconnaissance, mais qui avait été réglé en 2004, parce qu'à l'époque, tous les membres du commando, enfin les survivants en tout cas, n'avaient pas reçu la Légion d'honneur.
Dans la dernière promotion de la Légion d'honneur, le 1er janvier, Hubert Faure venait d'être élevé à la dignité la plus haute, celle de Grand Croix. Il ne reste aujourd'hui plus qu'un seul vétéran du commando Kieffer, Léon Gauthier, est âgé de 98 ans.
Jean-Gabriel Bourgeois, un seul membre du commando Kieffer, un seul compagnon de la Libération aussi, qui s'appelle Hubert Germain. L'actualité sportive avec la suite de la 34e journée de Ligue 1 et les Parisiens tout auréolés de leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions qui reçoivent chez eux au Parc des Princes où vous vous trouvez Julien Froment, les Verts de Saint-Etienne, c'est dans à peine une demi-heure et un effectif un peu affaibli côté parisien.
Oui, alors rassurez-vous, il y avait quand même suffisamment de joueurs pour l'échauffement là, qui vient de se terminer du côté du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que cette équipe parisienne est amoindrie, pas moins de 8 joueurs indisponibles cet après-midi pour affronter l'AS Saint-Etienne et non des moindres, Neymar qui purge son dernier match de suspension, Leandro Paredes, Idriss Agueil sont également suspendus et puis le capitaine Marquinhos s'est blessé, tout comme le gardien de but Keylor Navas. Bref, ça fait du beau monde du côté du PSG qui doit pourtant réagir après cette série assez incroyable de 3 défaites d'affilée au Parc des Princes, n'était plus arrivé depuis 2008. Paris doit donc l'emporter pour stopper l'hémorragie et surtout pour revenir à hauteur du leader Lille. En cas de victoire, les Parisiens reviendraient à un petit point des Dogs. Donc voilà les enjeux de ce Paris Saint-Germain-Saint-Etienne.
Eh oui, les enjeux de la course au titre, effectivement, pour les Parisiens. Notez aussi une autre rencontre ce soir, Nantes-Lyon, à 21h à suivre sur Europe 1. Il nous reste à voir le temps de ce dimanche et c'est une France coupée en deux, Valérie Darmon.
Effectivement Fabienne, entre Est et Ouest, avec toujours un temps instable à l'Est où le ciel est bien chargé, donnant de fréquentes averses et parfois des orages. Il neige aussi sur le relief à partir de 1200 mètres sur les Alpes du Nord jusqu'à 1004 sur celles du Sud. Mistral et Tramontane dégagent davantage le ciel du pourtour méditerranéen ce dimanche, soufflant autour de 70 km/h. Surtout le golfe du Lion, pas encore les Alpes-Maritimes, même si ce matin vous profitiez de très très belles éclaircies, voire d'un grand ciel bleu. Le ciel va se couvrir sur la région de Nice au fil de la journée. Des Hauts-de-France au Limousin, Midi-Pyrénées et Auvergne-Rhône-Alpes, le ciel est nuageux mais sec. Et de la Manche et de la Bretagne à l'Aquitaine, ciel parfaitement bleu jusqu'à ce soir. C'est là qu'il fait aussi le plus doux cet après-midi avec 19 annoncés à Mont-de-Marsan et à Montpellier, 18 à Bordeaux, à Cahors et Perpignan, 17 à Carcassonne et Marseille, 15 à Paris, 14 à Charleville-Mézières et Troyes, 13 à Rouen, 12 à Embrun et Aurillac et 10 degrés à Saint-Étienne et à Dunkerque.
Merci Valérie Darmon.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
À suivre, il y a 2 ans, le monde entier découvrait sidéré Notre-Dame en proie aux flammes. Agnès Poirier nous fait vivre dans un livre passionnant, Notre-Dame, l'âme d'une nation, cette nuit où la cathédrale a été sauvée. Elle nous replonge aussi dans l'histoire de cette cathédrale qui explique pourquoi cet incendie a bouleversé le monde entier.
Europe Midi. Écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Emmanuel Macron sur les toits de Notre-Dame, c'était jeudi pour visiter le chantier de reconstruction avec toujours cette volonté que l'on puisse accueillir de nouveau du public en 2024. Scène à peine croyable quand on se souvient de Notre-Dame en flammes il y a seulement 2 ans. Bonjour Agnès Poirier.
Bonjour.
Vous venez d'écrire Notre-Dame, l'âme d'une nation aux éditions Flammarion. Vous nous racontez comme si on y était cette soirée et cette nuit du 15 avril 2019 où le sort de Notre-Dame s'est joué. Récit que vous nous faites revivre à travers l'émotion, l'engagement de ces hommes, de ces femmes qui ont sauvé Notre-Dame, qui la restaurent aujourd'hui. Je pense notamment au recteur de Notre-Dame qui s'évanouit dans les bras d'Anne Hidalgo ou le choix terrible, vous nous en reparlerez, du général Gallet qui commandait les pompiers de Paris. Vous nous replongez aussi dans l'histoire de la cathédrale depuis la pose de la première pierre, en passant par la Révolution, le sacre de Napoléon, pour mieux nous faire comprendre pourquoi cet incendie a bouleversé le monde. Mais déjà, on va revenir justement à cette fameuse soirée et nuit du 15 avril 2019. Vous êtes journaliste, correspondante à Paris notamment pour de nombreux médias anglo-saxons. Vous vous êtes retrouvée du coup en première ligne à commenter cet incendie pour des médias du monde entier. C'est là que vous avez pris justement la mesure de l'onde de choc de cet incendie à travers le monde.
Oui, en fait, je revenais de Londres parce que je me partage, je suis très très souvent à Londres, je suis la correspondante de l'Express, notamment là-bas, et je devais commenter en direct pour la BBC une émission politique assez intéressante parce qu'elle est produite et présentée à la fois à Londres et à Washington, ça a son importance plus tard, et le discours du président Macron. Donc, j'étais en train de préparer ça. Il se trouve que quand je suis à Paris, j'ai la grande chance d'avoir vu sur Notre-Dame. Et évidemment, tout de suite, je regarde par la fenêtre, je vois ces énormes nuages jaunes, je me précipite. Et évidemment, on décide à Londres, à Washington, de consacrer cette heure d'émission, mais comme tous les autres journaux du monde entier à ce moment-là, les caméras braquées sur Notre-Dame. Et là, tout d'un coup, alors d'abord, il y avait l'énorme émotion que je ressentais en tant que Française et Parisienne, et la Française de l'étranger, puisque j'ai passé la moitié de ma vie maintenant à Londres. Et tous mes collègues, parce qu'ensuite j'ai enchaîné 48 heures, nuit et jour, pour les médias anglophones, mais pas seulement, pour les Chinois, les Indiens, les Australiens. Et la même question me revenait, de gens qui n'avaient parfois jamais mis les pieds à Paris ou même dans la cathédrale, et ils étaient en larmes dans mon oreillette. Et ils me disaient, mais on ressent quelque chose de profond, et pourtant nous ne sommes même pas Français, et dites-nous pourquoi.
Alors
justement, donc au début, bon, il a fallu quand même que je donne des réponses, mais qui me semblaient à la fois pas assez profondes, pas assez satisfaisantes. Et c'est mon éditeur anglais qui m'a dit, mets des mots sur cette émotion que vous, nécessairement, avez ressentie en France, mais aussi nous, à l'étranger. Et voilà, c'est le début de cette enquête à la fois journalistique et historique.
Alors, journalistique, justement, parce que vous nous prolongez avec les acteurs clés. On va prendre deux ou trois moments. Par exemple, le général Gallet, ce choix terrible qu'il a dû faire par rapport à ses hommes. C'est lui qui commande les pompiers de Paris. Racontez-nous, parce que c'est vrai qu'on est saisi.
Alors, j'ai eu la grande chance de pouvoir le rencontrer, parce qu'il s'est fait assez rare après l'incendie. Donc, le commandant en chef des pompiers. Et alors, il faut le rappeler quand même que les pompiers de Paris sont des soldats. Napoléon, 1811, et réchappe de peu à un incendie à l'ambassade autrichienne lors d'un bal. Et il se dit, bon, c'est fini, il nous faut les meilleurs.
Et là, il doit faire le choix d'engager ses hommes. Voilà. Et donc, au péril de leur vie.
En fait, il me dit, la situation était tellement désespérée qu'il n'y avait qu'une solution, c'était l'audace. Et donc, il n'échange pas beaucoup de mots avec ces hommes, il les connaît tous, et il a compris que ces hommes se portent volontaires, même s'ils sont soldats. Enfin, tout ça, c'est par des échanges de regards, et qu'ils sont prêts à y aller. Il lui faut évidemment l'autorisation du président et le président aussi. C'est entre eux, c'est juste des regards, une poignée. Le président Macron lui serre la main, lui dit allez-y. Et dans l'assistance d'ailleurs près du président, quelqu'un a dit mais a-t-on évalué les risques ? Et le général Gallet répond les risques sont consentis.
Ça veut dire, et ça témoigne justement, et là on se replonge dans l'histoire de cette cathédrale, que on va sauver des pierres, mais c'est plus que des pierres, c'est l'âme d'une nation, comme vous le dites, pour qu'on engage comme ça sa vie. Et vous retracez justement des moments clés. Hein. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que, par exemple, on pourrait reprendre la Révolution, c'est-à-dire que même la Révolution, Notre-Dame, c'est l'endroit où on va prononcer un tédéum après la prise de la Bastille, c'est l'endroit où on va célébrer l'abolition des privilèges, puis après ce sera Napoléon qui s'y fait sacrer.
Alors, en fait, je suis revenue, j'ai identifié 10 dates clés, j'allais dire 10 scènes clés, parce que c'est vraiment du cinéma. Et peut-être, avant de parler juste de 1789, le financement de la cathédrale. Contrairement aux autres cathédrales gothiques, nous l'avons financée. Parce que, un peu l'aristocratie, bien sûr, mais les prostituées de Paris, les bourgeois, les paysans.
C'est la cathédrale du peuple.
C'est la cathédrale du peuple, absolument. Et donc, elle a déjà un statut unique. Et en 1789, oui. Alors, en fait, Notre-Dame attire les rebelles et les révolutionnaires. On se rappelle même de Jean-Luc Mélenchon le soir du 15 avril, les yeux totalement rougis. Il a eu ces paroles formidables, très belles, sur les bâtisseurs de cathédrales. Et Viollet-le-Duc était un rebelle aussi, puisque c'était un autodidacte. Il n'était pas passé par les Beaux-Arts et par l'Académie de Rome.
Le cœur de la nation, comme dira Victor Hugo.
Absolument. Et donc, les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils font à chaque fois qu'ils massacrent les gardes suisses, par exemple ? Eh bien, ils vont faire une célébration de messe, comme si Dieu, la transcendance, la providence ne pouvait être que du côté du peuple et de la Révolution. À un moment donné, alors je vais aller vite, mais quand on constitutionnalise la religion, les prêtres doivent prêter serment et ils se disent « mais ma foi, il n'y a rien de plus démocratique que d'élire son prêtre ». Et donc, Notre-Dame se transforme en énorme bureau de vote pendant 6 semaines, par exemple.
Ce qui est marquant aussi,
et c'est vraiment passionnant, et j'invite les auditeurs vraiment à se plonger dans votre livre, c'est que le bourdon de Notre-Dame aussi résonne à tout moment. Il a résonné au moment de la libération de Paris, il a résonné au moment de l'attentat de Charlie. C'est vraiment ce cœur de la nation, comme on le disait Victor Hugo.
Oui, absolument. Et en fait, c'est une symphonie en pierre, Notre-Dame, mais c'est aussi un son, c'est aussi ses cloches et le bourdon. Elle est là depuis 386 ans. Et effectivement, on a sonné le tocsin après le massacre à Charlie Hebdo pour des furieux athées et anticléricaux. Parce que Notre-Dame est à nous tous et nous sommes à elle, et c'est pour ça que elle est constitutif de ce que nous sommes, et beaucoup d'entre nous l'avions complètement oublié ou on ne le savait pas.
Je termine avec cette dernière question parce que il y a cette reconstruction à marche forcée pour coïncider, là encore, quel symbole aux yeux du monde entier, avec la réouverture au public au moment des Jeux Olympiques à Paris en 2024, forcément, j'ai envie de dire, à travers tout ce que vous nous racontez.
Oui, alors elle sera rouverte d'une façon ou d'une autre. Peut-être que la flèche ne sera pas finie, mais c'est la première fois de son histoire quand même.
C'est important de la reconstruire à l'identique, justement.
Écoutez, oui, je crois que c'est important, mais ce n'est pas un choix anodin ni conservateur. C'est un choix mûrement réfléchi. Philippe Villeneuve, l'architecte en chef, a fait un rapport de 3000 pages et il a présenté pendant 4 heures ses conclusions. Chacune d'entre elles a été acceptée parce que lui aussi, c'est un amoureux de Notre-Dame et Viollet-le-Duc n'est pas un choix conservateur.
Merci beaucoup Agnès Poirier d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle le titre vraiment passionnant de votre livre qui nous replonge au cœur de cette cathédrale. On voit comment vous l'aimez, vous la défendez vous aussi. Au fil des pages, Notre-Dame, l'âme d'une nation, aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis vous le savez, on prolonge cette tranche d'information à 13h en ouvrant les carnets du monde avec Sophie Larmoyer. Bonjour Sophie, vous nous emmenez où aujourd'hui ?
Bonjour Fabienne. Alors l'un des reportages aujourd'hui nous emmènera en Turquie auprès de la communauté Ouïghour exilée. Vous savez, c'est cette minorité turcophone et musulmane persécutée en Chine. Ils sont nombreux à Istanbul et s'inquiètent du rapprochement entre Ankara et Pékin. On appellera aussi Dilnur Reyhan, c'est une chercheuse à Paris, elle-même Ouïghour. Et on reviendra avec elle sur les pressions constantes que vit ce peuple, où qu'il soit, en Chine ou ailleurs dans le monde.
Merci Sophie, à tout de suite.